Bezrat Hashem, on va voir ensemble, on est juste avant Shabbat Hagadol, on rappellera donc le grand Shabbat avant Pessah. On voit premièrement que Shabbat Hagadol, s'il y a une mitzvah durant Shabbat Hagadol, c'est d'aller durant Shabbat écouter des cours sur les halachot de Pessah. On est acquitté de la mitzvah de Shabbat Hagadol seulement si on a écouté des cours ou si on a étudié les halachot de Pessah. Donc c'est une chose qui est extrêmement importante. Nous, ce soir, comme ce n'est pas encore Shabbat Hagadol, on va voir un point qui est important, une question qui revient souvent. Les gens posent la question. Pour quelle raison à Pessah, il y a ce choc, une loi sans réelle explication, de ne pas manger la pâte fermentée, c'est-à-dire le levain qui a levé, entre guillemets. Hein. D'accord ? Quand on parle de levain ici, on fait référence à la pâte qui a monté, qui a fermenté, qui est appelée chametz. Alors on voit, hein, premièrement, le Khatam Sofer apporte Gemara, Midrashim, Zohar, pour expliquer la chose. Il nous explique que durant les trois grandes fêtes, donc à Pessah, on va se priver de besoins vitaux. À Pessah, on change nos habitudes culinaires. On va se séparer de la nourriture qu'on a l'habitude de manger. On mange kasher les Pessah. Donc tout le Khametz, on ne mange pas à Pessah. À Shavuot, on se prive du sommeil. Durant la nuit de Shavuot, on ne dort pas de la nuit normalement, jusqu'à la Tfilat Shacharit. Certains ont pour coutume de ne pas dormir une partie de la nuit, chacun selon ses coutumes, mais on voit en réalité que le soir de Shavuot, on se prive du sommeil. Et à Soukot, on se prive de la maison. On dort et on mange dans la Souka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité ici, c'est des besoins vitaux dont on est en train de se priver à l'occasion des trois fêtes pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On peut se poser la question, pour quelle raison Dieu nous a donné la Torah? Alors on pourrait se dire que Dieu nous a donné la Torah tout simplement pour avoir une bracha dans la parnassa, donc avoir une meilleure subsistance, la bénédiction dans les affaires que l'on fait pour gagner plus d'argent, avoir la bonne santé, avoir le shalom bayit, la paix à la maison avec sa femme, la réussite dans l'éducation de ses enfants. Donc une raison personnelle, ou que la Torah c'est tout simplement... Au moment où on sort d'Égypte, Dieu nous déclare en tant que peuple, nous fait rentrer sur une terre, nous donne un pays, un état, auquel il institue des lois, ce sont les lois de la Torah. Maintenant, si on se résume à ça, ou que, encore, on pourrait dire que la Torah, c'est un ustensile avec des lois qui nous permettent d'accéder au monde futur, donc d'accéder au jardin d'Éden après 120 ans, après une vie bien remplie ici. Donc on pourrait se dire tout ça, mais en réalité la Torah, ce n'est rien de tout ça. C'est ni un code de loi sociale, c'est ni un ustensile pour accéder au Olam Haba, c'est ni un ustensile pour accéder à la Géoula, c'est-à-dire faire la Torah pour amener Mashiach, c'est bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on a la Torah. La Torah, dans le monde ici-bas, nous sert qu'à nous rapprocher de Dieu, qu'à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est à ça que ça sert. C'est quoi de la Torah? C'est la Midat Hadin, la rigueur divine, les lois de Dieu, qui nous oblige à prendre sur nous, que l'on prend sur nous le Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine. C'est quoi un joug? C'est un poids sur tes épaules. C'est une chose que tu prends. Et c'est pas évident de le prendre, ce joug, sur tes épaules. Pourquoi tu prends ce joug? Pour te relier à Dieu et pour être en relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est à ça que ça sert la Torah. À travers la fête de Pessah, quand on te dit tu te sépareras du Chametz, qu'est-ce que ça représente le Chametz? On prend une des cinq sortes de céréales, principalement le blé, avec lequel on fait la majeure partie des farines ici-bas. On prend le grain de blé, on va le cueillir dans le champ, d'accord? Après, on va lui enlever les écorces, on va le moudre pour obtenir la farine, et cette farine, on va la mélanger après, avec de l'eau, avec de la levure, ce qu'on appelle les shmarim, d'accord? Et cette eau avec cette levure, ça va donner une pâte, que lorsqu'on laisse monter cette pâte, ça nous donne le pain, le chametz. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit simplement que chaque neshama dans ce monde, elle est comparée à un grain de blé. Un de ces grains, de ces cinq sortes de céréales avec lesquelles on fait le pain. D'accord? Un grain de blé. Ce grain de blé, quand je le prends et que je prends cette neshama, je la fais descendre dans ce monde, la neshama doit se briser, se casser par rapport au monde matériel pour arriver à s'élever spirituellement. Donc j'en fais de la farine. Mais quand je lui donne le monde matériel, je lui donne la matérialité, je lui donne l'argent, je lui donne les biens matériels, je lui donne quoi ? Je lui donne donc de la levure pour lui permettre de lever. Et on lui rajoute de l'intelligence, de la chokhma. La chokhma, c'est comparé à l'eau. Donc je rajoute à cela de l'eau, de la chokhma. La personne, elle s'élève. Mais si dans son élévation, par rapport à son rang social, par rapport à son niveau d'éducation, la personne vient à s'enorgueillir, elle se détourne d'Akadosh Baruch Hu. Elle oublie que toute sa richesse, que toute son intelligence, que tout son bien-être ne viennent que de Dieu. Elle oublie Akadosh Baruch Hu. Elle se détourne d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. À Pessah, on te dit, oublie le monde matériel, comme durant les trois fêtes. C'est quoi ton corps, de quoi il a besoin pour pouvoir vivre? Ton corps, il a besoin de nourriture pour pouvoir vivre. Et d'une nourriture saine. On voit qu'à Pessah, c'est une période durant laquelle on doit non seulement se limiter dans le choix des nourritures que l'on peut consommer durant cette période, vu que le chametz, on en trouve quasiment partout, donc nos habitudes culinaires vont totalement changer, et alimentaires aussi. Mais en plus de cela, on voit quoi ? On voit que ton corps, il a besoin et de manger, et de dormir, et d'une maison pour pouvoir vivre dans ce monde. Et durant les trois fêtes, on te dit, ta nourriture, ton sommeil et ta maison, tu vas t'en priver. Pour te rappeler que si tu vis dans ce monde, tu ne vis pas pour ton corps. Tu vis pour ta neshama, pour ton âme. Pour élever ton âme à travers la Torah et les mitzvot, non pas pour avoir le Olam Haba, non pas pour avoir des récompenses, non pas pour avoir la bénédiction dans tes affaires, non pas pour avoir la bonne santé, non pas pour avoir la réussite dans tout ce que tu veux, dans ton shalom bayit, dans l'éducation de tes enfants, non, pas du tout. Tu le fais pour réjouir à Kadosh Baruch Hu, pour te relier à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, ici-bas. C'est à ça que sert la Torah. Quand on comprend ça, alors on arrive à une Torah lishma, à faire la Torah, pour le seul nom de la Torah, pour réparer notre âme qui fait partie de la Shrina, de la présence divine ici-bas. Quand moi je répare mon âme, à travers l'accomplissement de Torah en mitzvot, je répare la Shrina. En réparant la Shrina, je fais plaisir à mon Créateur. En faisant plaisir à mon Créateur, j'avance ce monde vers la Géoula. Mais ce n'est pas le but final. Le but final en soi, c'est toi de te relier à ton Créateur et être en communication avec Dieu, en permanence. Dans tout ce que tu fais, te poser la question, qu'est-ce que Dieu va penser de toi? Et d'être en relation avec ton Créateur, en permanence. Par rapport à ça, pour bien comprendre cette notion, on va raconter une petite histoire. On voit dans les Sipurei Maasiot du Rav Nachman de Breslev, il y a le premier conte qu'on nous raconte là-bas, il s'agit de la fille du roi. La fille du roi disparue. De quoi on nous parle? Il y avait un roi. On va résumer l'histoire, on ne va pas la raconter en entier parce qu'elle est très longue, on va vraiment la résumer. Il y avait un roi qui avait 6 fils. 6 fils et une fille. Il était très proche de ses 6 fils, mais encore plus proche de sa fille. Et sa fille, elle s'inquiétait du bien-être du roi. Elle lui disait toujours, fais attention, mange comme il faut, pas trop et pas insuffisamment. Dors comme il faut, pas trop et pas insuffisamment. Fais ce qu'il faut comme il faut, papa, pour que tu sois en forme, que tu aies la force d'être le roi et de régner sur le royaume. Et en permanence, elle lui donnait des bons conseils, jusqu'au jour où le roi s'est dit tout simplement, mais c'est moi le roi, c'est moi son père. Qu'est-ce qu'elle a celle-là tout le temps à vouloir me donner des bons conseils? Qu'elle reste un petit peu à sa place. Il s'est disputé avec sa fille. Et il a dit à sa fille que le mauvais t'emporte. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre des règles que tu veux m'imposer à chaque fois et des rappels à l'ordre que tu me fais à chaque fois. J'en peux plus. La fille vexée, mais vraiment très triste, elle va s'enfermer dans sa chambre. Et elle va voir que son père, il cherche même pas, va venir la voir. Il la recherche même pas. Au bout de quelques jours, la fille décide de se sauver du royaume. Et elle disparaît. Lorsque le roi, au bout de quelques jours, se rend compte que sa fille a disparu, il se met à la rechercher pendant des années, partout. Il ne la trouve pas. Le roi devient très triste. Il se dit, où est passée ma fille? Je suis resté seul avec mes 6 fils maintenant. Où est ma fille? Il ne la trouve pas, il est vraiment triste. Et le royaume change totalement de face à cause du grand malheur qui s'est abattu sur la maison royale. Jusqu'au jour où le vice-roi, après plusieurs années où le roi lui-même a cherché à retrouver sa fille, décide lui-même de se lancer à la recherche de la princesse. Et il va chercher à travers tout le royaume, exactement comme le roi, aux mêmes endroits, et d'autres endroits encore. Pendant des années, il ne trouve rien. Il n'arrive pas à retrouver la princesse. Et aux frontières du royaume, il y a un grand désert. Il se dit peut-être qu'elle est partie dans le désert. Et là, le vice-roi, avec son cheval, son armure, ses vivres, se lance à la recherche de la princesse dans le désert. Et là, lorsqu'il rentre dans le désert, il se rend compte tout simplement que dans le désert, à un moment donné, il y a une descente. Au bout de cette descente, il y a une oasis. Et dans cette oasis, il y a un grand palais. Quand il arrive aux portes du palais, il voit des soldats qui sont à la porte du palais, qui gardent le portail. Et les soldats lui font comprendre qu'il peut rentrer sans aucun problème dans le palais, mais il doit laisser ses armes, son armure et son cheval, ainsi que ses vivres, à la porte du palais. Ainsi, en se défaisant de tous ses biens personnels, le vice-roi, après avoir abandonné son poste de vice-roi, ça fait maintenant un bon moment qu'il est en train de rechercher la fille du roi, rentre seul dans le palais. Et dans le palais, là, quand il rentre dans le palais, qu'est-ce qu'il trouve sur les murs du palais? Tous les plus grands plaisirs qu'on peut retrouver sur Terre. Un mur rempli de iPhone, de smartphones de tout genre. Et dire, ici, servez-vous librement. Choisissez votre téléphone portable, choisissez votre ordinateur, choisissez votre abonnement. Un autre grande pièce avec toutes les plus belles voitures, Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini, tout ce que vous voulez. Choisissez votre voiture, elle est pour vous. Distribution gratuite de la part du roi du palais. Il rentre comme ça, de pièce en pièce dans le palais, et des pièces remplies de nourriture et de bonbons et de cacahuètes enrobées de caramel, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tous les plus grands plaisirs. Et tout, n'importe qui peut rentrer et se servir librement. Extraordinaire. Et à un moment donné, il arrive dans la pièce du trône royal, où là-bas, il voit autour du trône plein de soldats qui gardent le trône royal, et assis sur son trône, le roi du palais en question, au milieu de cette oasis. Et le roi fait appeler la reine. Et quand la reine rentre, le vice-roi reconnaît à ce moment-là la fille du roi, la princesse qu'il est venu chercher. Elle est là dans ce palais. Il n'ose pas l'approcher, il reste dans un coin de la pièce. Et la princesse, devenue reine dans ce palais, remarque le vice-roi et s'avance vers lui. Elle dit, mais on ne se connaît pas par hasard? D'ici, on se connaît, je suis le vice-roi de ton père. Tu m'avais vu à maintes reprises dans le palais de ton père. Tu me connais très bien. Je suis venu à ta recherche parce que j'ai appris les mauvaises paroles que t'a dit ton père et qui t'a souhaité que le mauvais puisse t'emporter. Et depuis que tu as disparu, sache que ton père est très triste et que tout le royaume est affligé et que nous vivons vraiment dans un deuil permanent parce que nous espérons chaque jour ton retour. Et là, la princesse lui dit, tu sais quoi? Je souhaite, moi, revenir avec vous, car sache ici, c'est le palais du mauvais. Et le mauvais, c'est ce roi. Et tout son palais, tout ce qu'il y a dans ce palais, c'est mauvais. Et moi, je veux sortir d'ici. Libère-moi. Et pour ce faire, tu vas devoir trouver dans le désert un endroit dans lequel, durant un an, tu vas devoir prier. Et à chaque fois que tu auras un instant, te rappeler que moi, la fille du roi, je te manque. Et que tu as envie que je revienne dans le palais de mon père. Et cela pendant un an. Et le dernier jour, tu ne mangeras pas. Tu jeûneras. Là, le vice-roi va dans le désert, choisit un endroit pendant un an. Il se met à prier et à expliquer que la fille du roi lui manque et qu'il a envie de la revoir dans le palais de son père et qu'elle revienne pour réjouir tout le palais de son père et tout le royaume de son père. Et le dernier jour, il se met à jeûner. À la fin du jeûne, il voit dans le désert un champ de pommiers qui se met à pousser miraculeusement. Et sur les pommiers, des pommes magnifiques. Il va cueillir une de ses pommes, parce que c'est la fin du jeûne. Il dit, avant d'aller chercher la princesse, j'ai besoin de me rassasier, j'ai jeûné pendant 24 heures maintenant. Il va croquer dans la pomme, et là il s'endort. Le serviteur du roi voit que le vice-roi, ça fait des années qu'il a disparu, se met lui aussi à la recherche du vice-roi, et le retrouve là, dans le désert. Et il le réveille. Il dit, mais que fais-tu là, vice-roi? Il dit, je suis parti à la recherche de la princesse, je l'ai retrouvée dans le palais du roi mauvais, et maintenant... je cherche à la libérer. Ça fait combien de temps que je suis là? Il dit, maintenant, ça fait des années que tu es là, que tu as endormi. Je suis venu pour te réveiller. Là, il se lève, le vice-roi. Il fonce au palais où il y a la princesse, ce palais au milieu de l'oasis. Et quand il rentre dans le palais, la princesse le voit et lui dit, mais j'y t'ai attendu, pourquoi tu n'es pas venu à la fin du jeûne? J'aurais pu venir avec toi, maintenant, je ne peux pas te suivre. Il faudra que tu te trouves un autre endroit durant lequel tu vas prier encore pendant un an. C'est pour ça que je la résume l'histoire. Et le dernier jour, tu n'auras pas besoin de jeûner cette fois-ci. Tu n'auras pas besoin de jeûner. Et après, viens tout de suite me chercher. Et là, le vice-roi, il trouve un autre endroit dans le désert. Pendant un an, il se met à prier. Au bout d'un an, Il va chercher la princesse qui lui dit « Ah, maintenant que tu as fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me sortir d'ici, je suis disposé à divorcer du roi qui m'a pris en épousaille, qui m'a forcé à l'épouser pour rentrer avec toi dans le palais de mon père. » Il l'a emmené dans le palais de son père. Et quand il est arrivé, le roi lui a dit « Écoute, ma fille, toi, mieux que moi, tu savais ce qui était bon ou mauvais pour la royauté. À partir de ce jour, ce n'est plus moi le roi. C'est toi la reine qui va régner sur tout le palais, tout le royaume. » Et depuis ce jour, ce palais a vécu dans le bonheur le plus total, grâce à cette princesse. Maintenant, cette histoire-là, elle n'a pas d'explication. C'est un conte du Rav Nachman de Breslev. Maintenant, il faut savoir que les contes du Rav Nachman de Breslev, ils s'inspirent d'enseignements kabbalistiques à travers la Hidra Rabba, la Hidra Zuta, les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, mais aussi le Etzreim. Donc, quand on connaît bien ces Sfarim-là, on sait très bien de quoi essaye de nous parler ici le Rav Nachman de Breslev, en code, entre guillemets, pour ses chassidim les plus avertis. Ici, de quoi on nous parle? On parle d'un roi, en réalité, qui a 6 fils. Il faut savoir que le monde matériel, quel que soit l'objet, il a 6 angles de vue, 6 faces, 6 côtés. N'importe quel objet, si je le vois, on peut le voir de face, on peut le voir de dos, on peut le voir depuis la droite, depuis la gauche, depuis le haut et depuis le bas. Donc ça fait 6 faces. Les 6 premiers fils du roi représentent le monde matériel. Le roi en question, c'est le corps. La princesse, c'est la Neshama, le 7e enfant. La Neshama qui fait le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Dieu a créé le monde en 6 jours, il nous a donné un 7e jour qui nous permet de nous relier à Akadosh Baruch Hu, qui est le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'âme de la semaine. C'est la Neshama de la semaine. De ce fait ici, la princesse représente la Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, elle veut prendre le contrôle du corps en lui disant, il faut faire Torah, Mitzvot, il faut prier à l'heure, il faut dormir la nuit, il faut manger kasher, il faut. Il faut beaucoup de choses, il faut respecter la Torah et les Mitzvot. Arrive un moment donné où le corps, lui, il a envie de profiter de ce monde. Il n'a pas envie d'écouter la Neshama. Ah, ça suffit cette Neshama, arrête de m'écouter. Arrête de venir me harceler. Va-t'en. Que le mauvais t'emporte, c'est qui le mauvais? C'est le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui est aussi appelé le Yetzer Hara. Un juif, quand il se détourne de la Torah, il est appelé mort. C'est une mort spirituelle. La Neshama, elle vient, elle va dans sa chambre. Elle est enfermée dans le palais du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il prend la Neshama, il la prend en épousaille, et il tue avec le Yetzer Hatov. Et la Neshama, elle est prisonnière là-bas. Et elle se retrouve dans un grand palais au milieu d'une oasis. Qu'est-ce que ça représente? Un juif, quand il a envie de faire Torah Mitzvot, il a envie de faire teshuva comme il en a envie. Quelqu'un, quand il commence à faire teshuva, il veut Mashiach tout de suite. Si Mashiach n'arrive pas aujourd'hui, le lendemain, ça ne sert à rien de faire Torah Mitzvot. Donc comme je monte, je peux très vite redescendre en Torah Mitzvot. C'est quoi cette Torah? C'est quoi ce palais? C'est quoi cette oasis? C'est une Torah que tu fais pour avoir ta parnassa, pour avoir ton shalom bayit, pour avoir ta réussite dans l'éducation de tes enfants, pour ton petit intérêt personnel, pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la klipat noga. C'est quoi la klipat noga? C'est une klipat de lumière qui ressemble à quoi? À l'oasis dans le désert. Dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents. Est-ce que les scorpions et les serpents arrivent dans l'oasis? Bien sûr qu'ils y sont dans l'oasis. Toi, tu as l'impression que tu t'en es sorti. Le Olam Hazeh, quand tu fais Torah en Mitzvot, tu peux être dans le palais du Yetzer Hara, en train de faire Torah en Mitzvot, et en ayant l'impression que tu es en train de t'élever. Mais la Torah que tu es en train de faire, elle n'est pas l'Ishma. La Torah que tu es en train de faire, elle n'est que pour toi. Elle n'est que pour ton intérêt personnel. Oh. À partir de ce moment-là, c'est le Yetzer Hara, il prend la Neshama, il lui dit, attends, mais voilà, grâce à moi et ta façon de faire Torah en Mitzvot, t'as tout l'argent que tu veux, tu peux te payer ce que tu veux, tu peux rouler dans les voitures que tu veux, tu peux donner la tzedaka autour de toi, tu peux tout faire. Arrive le vice-roi. C'est qui le vice-roi? C'est le tzaddik. Le tzaddik qui, lui, il va mettre de côté sa famille, il va mettre de côté son temps, il va mettre de côté ses besoins, il va mettre de côté toute sa vie pour aller sauver Neshama du clan d'Israël. Mais le tzaddik, il va devoir rentrer dans les abysses du corps et de l'âme d'une personne pour arriver à libérer la Neshama du palais du Yetzer Hara. Et quand il rentre dans ce palais, il peut avoir l'impression de faire teshuva à la Neshama. Donc durant la première année, de prier pour la Neshama, de prier pour la personne pour qu'elle fasse teshuva. Et la personne, elle se renforce. Mais la personne, quand elle se renforce, elle ne se renforce pas encore pour Akadosh Baruch Hu, elle ne se renforce que pour elle. Et arrive le fameux jour de Kippour. Au Rosh Hashanah, on est jugé. Et chacun, il doit se renforcer. Mais le fameux jour de Kippour, on ne mange pas. Et même le tzaddik, le jour de Kippour, arrive à la fin du jeûne, Au lieu de prendre encore un instant pour se dire, attends, je suis là pour me relier à Kadosh Baruch Hu, ah, j'ai jeûné, je vais me dépêcher d'aller manger. Mais c'est quoi ce champ de pommier? On dit qu'un juif, quand il fait Torah ou Mitzvot, il a un champ dans le ciel qu'il est en train de créer, un champ d'arbres, de pommiers. Et les fruits, il peut les manger dans le Olam Hazeh. Il peut profiter des actions, des bonnes actions qu'il fait dans ce monde, dans le Olam Hazeh à travers les fruits. Mais le Keren, le champ, il lui reste acquis dans le Olam Haba, dans le monde futur. Ça dit qu'il voit au bout d'un an, il est venu, il a prié, il a jeûné, il a tout fait pour cette Neshama. Il voit un champ de pommiers qui pousse dans le désert, il dit, c'est un miracle. La fille du roi, la Neshama, elle a dû retourner dans le palais de son père. Elle a repris le contrôle du corps. Donc c'est bon, avec ce miracle, je peux prendre le temps de manger. On te dit, non, ça dit que tu t'es fait avoir. Parce que la Neshama en question, comme toi, tu as vu ton intérêt, ton intérêt personnel avant de voir l'intérêt de l'autre. Avant de voir l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu à travers ton accomplissement de Torah au Mitzvot, bah cette Neshama-là, elle n'est pas encore libérée totalement de son Yitzhara. Elle est encore dans une klipa, dans une écorce. Une écorce de lumière, une écorce de Torah, mais une écorce où elle fait la Torah que pour elle-même. Pas que pour Dieu. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, elle te dit, attends, maintenant j'ai vu le travail que tu as fait, j'ai vu comment tu m'as fait avancer dans Torah au Mitzvot. Maintenant, je veux que tu me prouves que tout ça est vrai, que tout ça n'est que pour moi. Je veux que tu me prouves que toute la création n'a été créée que pour moi, pour faire Torah au Mitzvot. Alors encore une nouvelle année. Le tzaddik, le vice-roi, il va rejeûner, mais il va se faire réveiller avant par le serviteur. Ce qui est le serviteur, la Shrina elle-même, elle vient réveiller le tzaddik à travers les enseignements de nos maîtres, les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai et de tous nos grands maîtres, pour dire au tzaddik à travers la Torah, mais réveille-toi, apprends aux gens que la Torah, il faut la faire l'ishma, pour que la Neshama puisse garder le contrôle du corps, et se détacher totalement du matériel, et apprendre que le matériel ne sert qu'à une seule chose, à faire Torah au Mitzvot, pour réparer notre âme, et pour réparer la Shrina, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Essayez de comprendre. Essayez d'imaginer que vous avez un enfant. Un enfant qui est marié, qui a des enfants. Et que cet enfant-là, vous lui dites, voilà, je te paye la maison de tes rêves. Je te paye tout ce que tu veux, je te demande rien. Je te demande juste d'écouter mes conseils pour être heureux dans la vie. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il vous répond? Papa, écoute-moi. Je te remercie pour ce beau cadeau que tu m'as donné, cette belle maison avec tout ce dont j'ai besoin. Mais moi, je préfère te payer un loyer tous les mois et viens pas me prendre la tête avec toutes tes règles et tous tes conseils pour avoir une vie heureuse. C'est exactement ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, nous, dans ce Olam Hazeh. Kadosh Baruch Hu, il nous donne la vie. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Il nous donne la réussite. Il nous donne tout ce que l'on veut. Arrive à un moment donné, on dit à Dieu, tu sais quoi? Nous, on va te payer un loyer. On va faire qu'une partie de ta Torah, mais c'est pour nous. Pour toi, on va te dire que c'est pour toi, mais c'est pour nous. On te paye un loyer. Jusqu'au jour, à force de vouloir payer un loyer, on dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas parler avec toi. On a du mal à faire une tefila. On a du mal à parler avec Dieu. On a du mal à comprendre le sens de la prière. Et on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de ce moment-là, tout simplement, lorsque le tzaddik qui revient au bout de la deuxième année, il réussit à récupérer l'Neshama, il a prouvé à l'Neshama qu'à travers la Torah et les Mitzvot, quand on fait l'Ishma, il y a un très grand niveau. Et là, l'Neshama, elle peut revenir dans le palais du roi, de son père, le corps, et reprendre le contrôle du corps et le corps lui-même. Quand il vit sans âme, quand il vit sans spiritualité, il se sent pas bien. Quand il récupère sa spiritualité et que l'âme reprend le contrôle sur le corps, il est masé, comment il est heureux, comment il se sent mieux. Il fait régner son âme en parlant sur lui et il écoute son Yetzer HaTov à partir de ce jour-là. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que Baruch Hashem, que quand on fait la Torah, les Mitzvot que pour Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à ce niveau-là. Et vivre un instant de bonheur total et un véritable instant de délivrance dans ce monde, ici même, avant même la venue messianique. Ce qui est extraordinaire. Baruch Hashem. Donc on doit comprendre qu'on doit garder le contrôle de notre corps en permanence à travers l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite cette année, à travers cette belle mitzvah qui se présente devant nous, la mitzvah de Pessah, de faire la mitzvah comme il faut, de se détacher du monde matériel, de se détacher du chametz, de se détacher de la gaava, tout simplement, pour qu'on réussisse tout simplement à s'élever vers la Kadosh Baruch Hu. On voit même que la nourriture qu'on consomme à Pessah, si on en mange trop, si on mange trop de matzah, si on consomme trop la nourriture qu'on a pour habitude de manger à Pessah, on tombe malade. Donc on voit qu'à Pessah, non seulement on se détache de la nourriture qu'on a l'habitude de manger, mais de la nourriture qu'on a devant nous, il faut la manger raisonnablement, sinon on va être dérangé. Donc Akadosh Baruch Hu veut tout simplement que notre Neshama reprenne le contrôle sur notre corps en se détachant de nos besoins vitaux et de nos besoins corporels, de nos besoins matériels. Là est tout le sens des trois fêtes que Dieu nous a données. Et là est tout le sens, Baruch Hashem, où on retrouve tout le sens de la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot. Ainsi, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, tout simplement que, pour reprendre, pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, il y a un principe connu dont on parle dans la Kabbalah, on en parle en résumé dans la Gemara, d'accord ? Et le Rav Nachman de Breslev, il en parle, le Inyan de l'Aïd Bodedout. Il faut savoir que normalement, avant la Takana de Anshei Knesset Agdola, de la Grande Assemblée, n'importe quelle personne, lorsqu'elle faisait une prière, elle pouvait faire une prière dans le langage qu'elle voulait. Parler avec Dieu avec son propre langage. Et on considérait que c'était une prière. Le Rambam rapporte qu'on a une obligation de prière selon la Torah. Donc que la tfila, c'est de Horaïta. Et il explique que la première prière qu'on a réellement l'obligation de faire durant la journée, c'est la prière de Shacharit. Arvit aussi, on a l'obligation. D'accord ? Mais Shacharit, elle est très importante. Raison pour laquelle on a pour habitude de faire très attention de faire la tfila de Shacharit, le Zman du Shema, le Zman de l'Amida. Chez les Sépharas, on a pour coutume de suivre les Zmanim du Magen Avraham, qui sont les Zmanim les plus tôt, pour pouvoir faire la tfila avant les Zmanim du Magen Avraham. Selon certains, les Zmanim du Gaon de Vilna. Mais de faire la tfila avant un certain temps. Pourquoi ? Parce que pour nous, les Sépharas, on suit le Rambam. La tfila de Shacharit, la prière, première prière qu'on fait durant la journée, elle est de Horaïta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, aujourd'hui, on a une takana des tfilotes. On ne les comprend pas, les tfilotes. Quand on prend le temps, tout simplement, de temps en temps, de s'isoler pour parler avec un Kadosh Baruch Hu dans le langage qu'on comprend, de parler devant Dieu, devant notre papa, pour lui demander tout ce dont on a besoin, il nous répond, il est content. Parce que, au-delà de la tfila que l'on fait sans comprendre, parfois, en parlant notre propre langage dans la langue que l'on comprend, on arrive à mieux se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Tout le lien de l'Aïd Boudedout. Une femme qui va faire Aïd Boudedout et qui n'a pas l'habitude de prier, au moins elle fait Aïd Boudedout, cette fila à elle, selon le Rambam, cette fila-là, c'est une fila de Horaïta. Oh, c'est une fila de la Torah. C'est à un très grand niveau de prendre ce temps-là pour se relier à Kadosh Baruch Hu. D'Avka durant Pessah, on doit prendre le temps d'isoler le corps, de le mettre de côté pour se concentrer sur Yeshama, pour s'élever nous et tout notre foyer, tous nos amis, toute notre famille, pour que tout le clan Israël arrive à s'élever vers Kadosh Baruch Hu pour faire une Torah Lishma. Pour réjouir notre Créateur, à Avinu Shebashamein. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite à travers cette mitzvot, cette belle mitzvah, cette mitzvot de Pessah, et cette belle kavana expliquée dans ce shiur, à travers l'Aïd Bodedout et les Tfilot, de se détacher totalement du monde matériel, en comprenant que ce n'est pas au matériel de nous contrôler, mais c'est à notre spiritualité de contrôler le matériel, pour élever le matériel vers Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit à Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tous été comparés aux étoiles du ciel, mais on voit qu'à deux reprises, Yitzhak et Yaakov, un, il a été comparé à la poussière de la terre, et l'autre, il a été comparé au sable au bord de la mer, qui font partie de la terre. La terre, elle a une force de gravité. Quand nous, on commence à se relier à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est pas nous qui nous élevons vers Kadosh Baruch Hu. C'est nous qui avons la force de faire descendre Kadosh Baruch Hu dans ce monde, de dévoiler la présence divine dans ce monde, de réparer la présence divine ici-bas, devenir nous-mêmes une force de gravité, comme il a rapporté que les tzadikim, ils ont cette force de gravité d'attirer les gens vers la Torah, d'attirer les gens vers eux, de les ramener à Kadosh Baruch Hu. De cette même façon, quand on fait ça, chacun d'entre nous a la force de faire descendre Akadosh Baruch Hu. Au lieu de nous élever, on fait nous descendre Akadosh Baruch Hu. Mais quand nous, on fait descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on s'élève en même temps vers Dieu. C'est ça tout le but. Bezrat Hashem, qu'on arrive à refaire descendre la Shrina dans ce monde, que cette année à Pessah, on soit au Bet HaMikdash pour manger Minasvachim ou Minapsachim, tous ensemble, et Simcha, à travers la paix universelle, et une très grande joie tous ensemble autour de la Torah, des Mitzvot, de la Shrina, même Amen Keni Ratzon. Amen.